Docteur Pierre Nice, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes endocrinologue, nutritionniste et auteur de ce livre « Plus jamais mal au ventre, la solution FODMAPS pour soulager vos troubles digestifs ». C'est publié chez Édito. Le mot FODMAPS, c'est d'abord un acronyme qui désigne, et là je résume, des glucides qui sont présents dans certains aliments. Ça signifie quoi? Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais peut-être pour mettre la table, l'acronyme FODMAPS.
Alors, FODMAPS, ça signifie en anglais, mais vous me pardonnerez, mon anglais est épouvantable, fermentable by colonic bacteria, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols, ce qui veut dire en fait que ce sont des glucides qui sont fermentissibles à la flore intestinale et qui en fait sont des oligosaccharides, des disaccharides, des monosaccharides et des polyols.
Et ce sont des glucides, des sucres présents dans certains aliments, donc différentes variétés, on pourrait le vulgariser ainsi.
Oui.
Est-ce que les FODMAPS ou FODMAPS, c'est difficile à digérer pour tout le monde ou seulement pour certaines personnes?
Non, c'est surtout pour certaines personnes, si vous voulez, ça dépend en particulier de beaucoup de facteurs environnementaux, le stress, etc., mais aussi de la qualité de la flore intestinale. Donc, c'est pas pour tous, bien entendu, mais les symptômes sont faciles à reconnaître. C'est quand on n'est pas bien à digérer, ballonnement, troubles digestifs, des gaz, des troubles du transit, etc.
Souvent, les symptômes que l'on met dans le grand baluchon colon irritable et avec un tel diagnostic, là, souvent, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment jongler avec ça.
Oui, c'est pour ça que plutôt, si vous voulez, que d'avoir une réponse, on va dire, mécanique et médicale, la première étape, ça consiste ou peut consister justement à suivre une diététique qui va diminuer la quantité des FODMAP dans l'alimentation et à partir de là, voir si les symptômes s'améliorent, ce qui est le cas bien souvent.
Mm-hmm. Est-ce que les FODMAP sont responsables du syndrome du côlon irritable?
C'est en lien très fort, en tout cas, oui.
Et est-ce que ça peut se développer au cours de la vie, c'est-à-dire, on n'est pas du tout affecté par ces glucides-là, puis à un moment donné, plus tard dans notre vie, ça apparaît?
Oui, parce que vous allez par les facteurs d'environnement, la pollution entre autres, mais pas seulement, l'alimentation aussi d'autre part, vous pouvez malheureusement modifier ou infléchir légèrement votre flore intestinale et à partir de là, avoir une tolérance qui peut être très bonne au départ et moins bonne à l'arrivée.
Mm-hmm. On les retrouve, ces glucides-là, dans quel genre d'aliments?
Alors, si vous voulez, on peut les lister très rapidement et les développer après si vous le souhaitez. En fait, les oligosaccharides, c'est surtout ce que l'on va retrouver dans les légumes et les légumes secs. Les disaccharides, c'est le lait et les produits laitiers essentiellement. Mm-hmm. Les monosaccharides, c'est surtout ce qu'on va retrouver dans certains fruits, pas tous bien entendu. Et les polyols, bon, ce sont d'autres types de glucides, en fait, que l'on va trouver soit de façon naturelle dans certains types d'aliments, les fruits en particulier, mais aussi et surtout en additifs alimentaires. Vous savez, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais chez nous, quand on a la mention légale sans sucre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de glucides.
Ben non.
Je pense en particulier aux chewing-gums sans sucre, qui sont en fait sucrés pour avoir le goût avec des polyols. Et c'est ce qui explique que leur tolérance digestive soit vraiment pas toujours très bonne.
Mm-hmm. Je reviens encore à tenter de vulgariser, parce que bien sûr, c'est une diète qui existe depuis à peu près 2005. Ça a été popularisé, si je peux m'exprimer ici, par une nutritionniste en Australie.
Et
puis, je le dis en introduction, il y a vraiment des résultats probants, positifs, scientifiques, mais ce n'est pas tant connu encore du grand public.
Non.
Si on veut vraiment mettre des aliments, peut-être à éviter si on ressent ces symptômes-là.
Bien sûr, oui. Alors, évidemment, ils sont dans le bouquin, ça, vous l'avez compris.
Oui, bien sûr.
Si vous voulez, très schématiquement, alors la première partie de votre remarque est juste, mais vous savez que à partir du moment où on a une donnée scientifique qui est connue, prouvée, démontrée, il faut malheureusement, généralement, une bonne dizaine d'années avant qu'elle ne passe dans le grand public. C'est souvent très très long, hein. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, très schématiquement, ce que je peux vous dire, par exemple, en ce qui concerne les oligosaccharides, je vous dis que l'on retrouve dans certains légumes et dans certains légumes secs. Bon, là, il y a deux catégories, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a les fructanes et les galactanes. Et globalement, par exemple, pour les fructanes, vous allez retrouver ça dans le poireau, vous allez trouver ça dans l'oignon, vous allez trouver ça dans le chou. Donc ça fait déjà partie, si vous voulez, d'aliments qui sont très difficiles à digérer, les topinambours aussi. Et vous allez trouver pour les légumes secs, mais ça, j'allais dire malheureusement, beaucoup sont concernés, les haricots, les lentilles, les pois chiches. Et vous savez bien que s'ils ne sont pas très bien préparés en plus, vous risquez malheureusement avoir des intolérances extrêmement importantes. Alors donc ça, c'est la première partie, on va dire, par exemple, au niveau des oligosaccharides. Bon, les disaccharides, le lait et les dérivés, bon, ça, c'est facile à repérer, bien entendu. Il faut dire, par contre, pour les disaccharides, que plus vous allez vous orienter vers des produits qui sont proches du lait, et plus vous risquez d'entraîner une intolérance. Donc, par exemple, les fromages fermentés, les bleus, les roquefort, etc., ça c'est beaucoup mieux toléré chez les intolérants au food map que les fromages frais type caillade, etc. Les autres types d'aliments qui peuvent être concernés, notamment sur les monosaccharides, c'est surtout le fructose, hein. Vous savez que il faut, pour qu'il y ait une bonne digestion, il faut qu'il y ait un ratio entre le fructose et le glucose qui soit correct. Et donc, à partir de là, vous pouvez avoir pour certains fruits un ratio qui n'est pas très bon. Et donc, ça et là, si vous voulez, on peut dire, par exemple, pour les abricots, c'est pas toujours très très bien toléré, notamment en ce qui concerne les abricots secs. Pour les figues, par exemple, on va aussi trouver un peu ce problème. Pour les grenades, pour la mangue, pour les pêches, les poires, les pommes, malheureusement, qui sont des fruits très habituels, on peut avoir des intolérances, notamment par rapport à ce type de digestion. Bon, on pourra en parler tout à l'heure, mais il y a des modes de préparation qui permettent d'améliorer un petit peu la tolérance par rapport à tout ça. Donc voilà pour ce qui concerne ce type de monosaccharides qui sont un peu ennuyeux. Et puis les polyols, je vous dis, mais c'est essentiellement le problème, malheureusement, des aliments qui sont enrichis en polyols. Mais il y a aussi certains fruits. Alors pour les polyols, les aliments qui sont enrichis, ça, il faut regarder les étiquettes. Regardez s'il y a du sorbitol, du mannitol, du xylitol.
Tout ce qui finit par ol, finalement.
Voilà, ce qui finit par ol, il faut s'en méfier. Et puis, il y a certains fruits qui en contiennent finalement pas trop mal, ou beaucoup même, type fruits séchés d'une façon générale. Donc là, on cumule plusieurs types de facteurs un peu ennuyeux. Mmh. Les champignons qui peuvent être un peu ennuyeux à digérer pour certains. Les dattes, qui peuvent aussi poser des problèmes. Et puis les pruneaux, les fameux pruneaux que l'on consomme de façon habituelle à viser un peu laxative, contiennent aussi pas mal de polyols et donc ne sont pas toujours très faciles à digérer.
Mmh. Ce qu'il y a de bien dans votre livre « Plus jamais mal au ventre », c'est qu'il y a aussi les quantités à privilégier, ce qui est plus à éviter. Est-ce qu'il faudrait, si l'on ressent les symptômes de ballonnement, de gaz, là, tout ce qu'on a énuméré plus tôt, complètement éliminer ces aliments pour peut-être ensuite les réintégrer ou plutôt juste respecter des portions?
Alors, dans un premier temps, pour savoir, parce que ça c'est une question qu'on me pose souvent, si vous voulez, pour savoir si on est intolérant au food map, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule solution, malheureusement, il n'y a pas de test biologique qui permette de dire, par exemple, voilà, on va faire tel dosage, on saura si vous êtes ou non intolérant. Mmh. La seule solution, elle est pragmatique et empirique. Il faut tout supprimer. Donc c'est vrai que pendant une période, si vous voulez, de quelques semaines, c'est pas toujours très facile parce que il y a beaucoup d'aliments qui sont de consommation très courante. Il faut tout supprimer et voir quelle est l'évolution des symptômes. Normalement, si vous voulez, si on est intolérant au FODMAP, quand on supprime ce type d'aliment, déjà en 15 jours, 3 semaines maximum, il y a une nette amélioration des troubles. Donc on poursuit l'éviction totale ou autant que faire se peut pendant environ 6 semaines. Et après, progressivement, on va réintroduire chaque type d'aliment dans chaque catégorie pour aller repérer celui qui pose réellement un problème. Parce que, et c'est ça la particularité, on constate en fait, si vous voulez, que certains vont être intolérants avec un type de FODMAP dans une catégorie et un autre va être intolérant à un autre type de FODMAP dans une autre catégorie. Donc c'est pour ça que c'est important de bien savoir quels sont les aliments auxquels on est intolérant, pouvoir les réintroduire progressivement catégorie par catégorie, pour finalement revenir à une alimentation qui soit beaucoup plus facile avec le quotidien. Et c'est ça le but. C'est pouvoir revivre normalement en ayant repéré les aliments qui sont les plus nuisibles pour un individu donné. Et donc, du coup, les autres, après, on est tout à fait tranquille. C'est ça qui est intéressant.
Mais, Pierre Nice, ça demande énormément de rigueur, de discipline, en tout cas, du moins au départ.
Oui.
Faudrait-il avoir un petit carnet où on note un carnet alimentaire?
Vous savez, enfin, dans mon expérience, mais si les gens ont peur de se tromper, dans mon expérience, les gens finissent par reconnaître les aliments auxquels ils sont plus ou moins intolérants. Moi, je pense à une patiente, par exemple, qui est relativement intolérante aux champignons et qui, par ailleurs, est finalement pas si intolérante que ça aux lentilles, haricots et pois chiches. Je peux vous dire, elle le sait, quoi. C'est-à-dire que à partir de là, elle va demander quand elle est à l'extérieur si par hasard des champignons auraient été intégrés dans une sauce ou une préparation quelconque. Donc au début, pourquoi pas avoir un petit carnet, c'est très bien. Mais après, je vous promets, les gens le savent très très bien.
On voulait aborder les façons de cuisiner qui pourraient être plus favorables à ces aliments-là.
Alors, je vous le disais tout à l'heure, notamment sur le mode de préparation par rapport aux fruits par exemple. Il est clair que déjà, si on prépare un fruit, je pense à une pomme, qui contient quand même pas mal de FODMAP, on peut déjà, dans le mode de préparation, s'il y en a une tolérance qui n'est pas trop mal, râper la pomme, mettre un filet de citron, la sucrer avec un petit peu de... d'agave ou quelque chose comme ça. Et ça passera très bien, ou en tout cas, ça passera beaucoup mieux. Donc après, il y a le mode de cuisson des autres aliments, notamment la cuisson vapeur, la cuisson à l'eau, etc., qui va enlever une partie des éléments indigestes et qui permettra à ce moment-là une meilleure digestion. Et notamment, si on fait cuire dans deux eaux, par exemple pour les choux, hein, les choux-fleurs par exemple, vous pouvez très bien les faire cuire en deux eaux, les faire blanchir dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, en ayant changé l'eau, les faire recuire. Et donc, à ce moment-là, vous aurez quelque chose qui sera bien plus digeste. Faire germer, par exemple, les lentilles, vous savez, vous les mettez dans un peu d'eau, dans un petit récipient juste couverte. Juste quand vous voyez apparaître un tout petit germe, à ce moment-là, vous savez que la première partie des glucides peu digestes a été consommée par la germination. Et donc, à ce moment-là, vous allez avoir quelque chose qui sera beaucoup, beaucoup plus digeste. Et puis, pareil pour... certains produits, on peut très bien, entre guillemets, les ramollir avec une marinade ou quelque chose comme ça. Une salade de fruits, par exemple, avec un filet de citron, sera beaucoup plus digeste que le fruit pris comme ça de façon un petit peu brute.
Et bien sûr, ce sont des trucs que l'on retrouve dans votre livre. Mais
oui,
c'est bien de voir qu'il y a des stratégies pour s'adapter également. Je trouve que ça devient peut-être moins une montagne ainsi si on a des troubles digestifs puis qu'on ne sait pas trop par quel côté prendre ça, là.
Oui, oui, tout à fait. Je pense, si vous voulez, enfin, on voit trop souvent des gens qui sont pas invalides, j'exagère bien entendu, mais ça pose un problème en société. Vous imaginez quand vous êtes sorti, invité, etc., que vous avez des aliments que vous digérez pas, vous vous mettez à gonfler comme un ballon de baudruche. Pour les hommes, à défaire la ceinture du pantalon, enfin, c'est très, très inconfortable. Donc on peut, par ce mécanisme-là, si vous voulez, en un temps qui finalement n'est pas aussi long que ça, arriver à permettre à ces gens de retrouver une vie sociale normale, ce qui est quand même vraiment très, très important.
Oui, et de retrouver du plaisir à manger aussi.
Oui.
Ça, c'est assez important aussi. Docteur Pierre Nice, vous êtes endocrinologue, nutritionniste et auteur du livre « Plus jamais mal au ventre, la solution FODMAPS pour soulager vos troubles digestifs » publié chez Édito. On vous joignait du côté de la France, donc il est 20h30 et des poussières. Bonne soirée, docteur Nice.
Très gentil, merci et puis bonne journée pour vous puisque décalage horaire oblige.
Et voilà, merci beaucoup. Au revoir.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.